Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Que donnent à voir de même les acteurs qui se trouvent sur la scène du théâtre? Quelle part de vérité et de mensonge s'articule en eux au moment où ils jouent? Jusqu'où puissent-ils dans leur vie, leur subjectivité, leurs émotions pour rejoindre cet autre, ce double, cette extension éphémère d'eux-mêmes qu'est le personnage qu'ils interprètent? Certains comédiens se présentent au public dans une forme d'exhibition crue, sans retenue, tout en eux, et offert et livré au regard. D'autres, par contre, ne sont que fenêtres entrebâillées sur plus vastes que leur présence concrète, plus ample que les mots qu'ils profèrent, plus profond que le visage qu'ils proposent au regard. C'est vers ces derniers que nous nous tournons aujourd'hui. Nous ouvrons le chapitre « Intériorité » d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art qui creuse sous la surface. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Chaque fois j'oublie. Ouais, j'aime bien, mais en même temps, comment dire, je sais pas si. Ouais, enfin, tu vois, je. Non. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il fait froid ou c'est moi? Je l'appelle ou pas? Les corps les plus simples n'ont pas d'intériorité. Mon petit corps simple, bien souvent traversé. D'intuition confuse, sensation diffuse, perception inadéquate, inadéquate, ne cesse de changer.
Bonjour Irène Jacob.
Bonjour.
Vous êtes actuellement à l'affiche de La maladie de la mort, texte de Marguerite Duras, mise en scène par Cathy Mitchell au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. On vous verra en mai à Montbéliard et en juin à Paris dans un autre spectacle, La Voix humaine, une mise en scène de Roland Osay d'après le texte de Jean Cocteau et aussi un peu du dramaturge allemand Falk Richter. Et on vient de vous entendre chanter, on vous entend chanter car vous êtes aussi, c'est moins connu, chanteuse. Lorsque l'envie nous est venue de parler dans une saison au Théâtre de l'Intériorité, c'est à vous que nous avons pensé, Irène Jacob. Et alors finalement, cette chanson où vous parlez d'intériorité nous conforte et nous confirme le fait que vous avez quelque chose à faire avec ça, avec l'intériorité. Qu'est-ce que vous entendez dans ce mot d'intériorité?
Alors, ben, beaucoup de choses. C'est vrai que l'autre, hier, j'étais en train de regarder la lumière comme ça, alors qu'il faisait un jour très gris. D'un coup, il y a une lumière à travers cette sombre clarté. Et mon fils a dit, ah, c'est beau la lumière. On a de la chance de vivre, hein, c'est vrai. Et il me dit, en même temps, c'est drôle parce que je te regarde et toi, t'as tes pensées, puis moi, j'ai les miennes. Donc, mon fils a 13 ans. Et je me suis dit, ben voilà. Exactement. Il veut dire que c'est beau la vie, mais on a chacun des vies bien différentes et nourries de beaucoup de choses différentes. Et je me disais, c'est ça l'intériorité. C'est ce monde intérieur, qui fait qu'on est tous des petites planètes aussi. Et alors bien sûr, ça s'échange, parce que l'intériorité, elle se nourrit de ce qu'on voit, d'une très belle lumière, d'un sourire, d'un livre, d'un spectacle, d'un souvenir, peut-être vous, même de rien. Mais...
Vous êtes une contemplative dans la vie courante, oui. Irène Jacob?
En tout cas, une rêveuse, oui. Oui. C'est-à-dire que je me pose quelque part et oups, ça part. Enfin, je veux dire, c'est vrai que je m'ennuie pas, en fait, j'aime bien le... Par exemple, sur un plateau de cinéma, on passe beaucoup de temps à regarder les autres, à penser, à avoir cette libre pensée comme ça, et c'est, je crois que je suis quelqu'un d'assez patient. Ouais.
On sait qu'il y a beaucoup de façons de jouer, il y a autant de façons de jouer qu'il y a d'acteurs sur une scène de théâtre, et certains acteurs réfutent totalement le fait d'aller creuser en eux-mêmes pour nourrir leur personnage. Est-ce que c'est au fond de votre subjectivité que vous trouvez la matière vive du personnage, vous?
Il y a plusieurs choses, évidemment. Je pense que il y a le corps, il y a la façon de bouger, il y a ensuite le texte, hein, dire le texte, dire les mots, il y a des rapports de distance entre la relation. Comme dirait Cathy Mitchell, c'est ce qu'il y a de plus important au théâtre, c'est la relation. Mmh. Et c'est vrai, qu'est-ce qui se passe entre deux personnes? Donc tout ça, c'est à jouer. Une fois que tout ça est créé comme une dynamique, hein, Ensuite, il y a évidemment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pendant que tout ça se passe. Et chaque soir, c'est différent. On peut, alors bien sûr, c'est le travail évidemment qu'a fait Stanislavski aussi, de dire, voilà, on va s'inventer un sous-texte. C'est-à-dire que on va dire oui, mais au fond, en soi, on se dit, ben j'aurais mieux fait de dire non. Ou bien on va dire, elle dort, et en disant elle dort, on va penser... C'est terrible de dormir. Enfin, alors, voyez, alors que ça, on pourrait dire, elle dort et comme c'est merveilleux de dormir. Donc, c'est cette façon de faire tourner la phrase a un côté plastique. On peut la modeler d'une certaine façon suivant comment on la nourrit à l'intérieur. Alors, c'est vrai que, on dit un texte, on l'apprend, comme dirait Jouvet, dites le texte, c'est rien que le texte. C'est vrai, les virgules, la ponctuation, parce qu'à travers ce rythme-là, de l'écriture, petit à petit, évidemment, quelque chose se nourrit aussi à l'intérieur. Et on se dit, mais finalement, cette femme vient d'où? Et qu'est-ce qu'elle pense? Et qu'est-ce qu'elle pense de cet homme? Et qu'est-ce qu'elle pense? Et qu'est-ce qu'elle sait, elle, de la vie? Et en quoi cette histoire, là, je parle plus forcément de la maladie de la mort, mais par exemple, pour la voix humaine, c'est une histoire d'abandon, mais quel abandon est-ce que ça lui rappelle? À quoi ça la ramène? Qu'est-ce qui... Et tout d'un coup, en nourrissant ce personnage avec une vie, on lui crée peut-être d'autres pensées que les siennes. Mmh. C'est-à-dire que tout d'un coup, les choses ne veulent plus dire la même chose suivant l'expérience qu'on a eue avant. Et c'est ça, un personnage, en fait, au théâtre, arrive chargé de quelque chose. Bien sûr, ensuite, on peut changer les choses d'un soir à l'autre, mais c'est important quand même de savoir d'où on part. Et en tout cas, pour le spectacle de la maladie de la mort, c'est que Cathy Mitchell avait écrit une biographie pour les deux personnages de la femme et de l'homme. Et j'avais été assez impressionnée de voir cette biographie. Je sais qu'elle avait travaillé avec Grotowski, elle avait fait tout un travail sur le corps, mais ensuite elle avait beaucoup travaillé sur la méthode Stanislavski. Et c'est vrai que la méthode Stanislavski, donc c'est l'acteur studio, c'est le sous-texte, c'est...
C'est une forme d'épaisseur au fond qui est donnée au personnage en allant puiser dans d'autres strates. Des strates plus souterraines, des strates plus intérieures pour le coup. Mais là, ce que vous dites, Irène Jacob, c'est intéressant parce que vous soulignez le fait que Cathy Mitchell parle de la relation de l'acteur oui. à l'autre. Mais là, vous parlez de la relation de soi à soi. Quand vous dites, on dit une phrase et finalement, peut-être qu'au fond de soi, on ne pense pas ce qu'on est en train de dire. Donc, vous entretenez avec vous-même pendant le jeu ou en tout cas pendant la préparation. Une sorte de dialogue ininterrompu et qui peut être paradoxal, contradictoire, ne pas aller dans le sens de ce que
vous
dites.
Ah oui, carrément. Oui. Ah oui, c'est ça qui crée la tension. Et c'est vrai que c'est assez, assez amusant. Mais c'est vrai que du coup, on est avec l'autre et quand tout d'un coup, on dit quelque chose, on se dit, ben, à ce moment-là, au fond de moi, j'ai envie de quitter cette... Par exemple, imaginons, au fond de moi, j'aurais envie de quitter la table et je dis, et si je restais? Enfin, donc, il y a une façon de... On joue avec cette espèce de tension intérieure qu'est la vie. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on essaye de créer de la vie. Et la vie, c'est compliqué. C'est fait de plein de choses. Alors, effectivement, parfois, c'est intéressant d'être contradictoire parce qu'on l'est contradictoire. Et puis, une relation intérieure, elle se passe toujours, même quand on est en relation avec l'autre. Mmh. Et puis, on a une relation à l'espace, et puis on a une relation... On est une petite symphonie à nous-mêmes tout le temps, en fait, je veux dire, dans tout ce qu'on fait. Alors, on n'y pense pas parce qu'on le fait naturellement. Puis, tout d'un coup, s'il fallait y penser, ça devient très très compliqué. N'empêche que pendant les périodes de répétition, on essaye de l'organiser un petit peu cette période. Voilà, d'où je viens, qu'est-ce qui m'est arrivé, de quoi je pense, qu'est-ce que ça me fait quand il me dit ça. Après tout, est-ce que ça me blesse, est-ce que ça me fait plaisir, et qu'est-ce que j'en montre?
On va y venir, Irène Jacob. Je voudrais d'abord vous faire écouter en ouverture de cette saison au théâtre les mots d'un philosophe qui est également anthropologue. Il a beaucoup écrit, notamment sur la marche, il écrit des livres magnifiques et qui font du bien. Cet homme, c'est David Le Breton. Écoutez-le parler de la peau et de l'intériorité.
Le plus profond, c'est la peau, disait Paul Valéry, mais dans un sens... Cette phrase, je la trouve extraordinaire parce que je la connais, je l'ai lue, je la connais depuis bien longtemps, mais quand j'écrivais ça, il y a 15 ou 20 ans, ça n'a plus du tout le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, où on vit dans un monde de tyrannie de l'apparence, par exemple, on peut dire qu'en effet, dans le monde d'aujourd'hui, c'est clair, le plus profond, c'est la peau. Parce qu'on n'est plus que ce qu'on affiche au regard des autres. Et ça, les jeunes générations, pour le meilleur, pour le pire, l'ont sacrément bien compris, puisqu'ils sont en permanence dans ces jeux d'apparence. Que ce soit d'ailleurs l'écran de l'ordinateur ou l'écran de la peau, on est dans les mêmes logiques de se bricoler des identités provisoires en étant strictement à la surface. Et donc d'ailleurs dans un refus de l'intériorité, moi, qui me paraît l'un des traits les plus tragiques du monde d'aujourd'hui, le refus de l'intériorité, la peur de l'intériorité, donc c'est aussi la peur du silence, ça peut être aussi la peur du livre d'ailleurs, la peur de création cinématographique, chorégraphique, théâtral, où il faut réfléchir un peu, on préfère les produits aujourd'hui, et d'ailleurs on est dans un monde de produits, qu'il s'agisse beaucoup du livre, mais le cinéma devient ravagé par les produits. Tout est un monde d'apparence. On joue sur les signes, mais là, dans un sens que Baudrillard était même loin de soupçonner quand il écrivait son grand livre sur la société de consommation, parce que ça a pris une ampleur absolument saisissante.
C'est intéressant ce que dit David Le Breton sur la peur de l'intériorité. Ce qui voudrait dire à l'inverse, Irène Jacob, que ça vous demande un certain courage, vous actrice de cinéma et de théâtre, d'aller creuser cette intériorité, de vous affronter à ce qui est au fond de vous aussi, et qui est peut-être pas toujours très plaisant, très agréable et qui fait pas forcément du bien.
Ah oui, alors ce qui est intéressant quand on travaille par exemple justement avec un auteur ou une metteur en scène qui nous fait aller autre part que là où on a l'habitude d'aller. Ouais. Alors là, on est intéressé parce qu'on découvre d'autres chemins, on ouvre d'autres synapses, voilà. Et tout d'un coup, c'est intéressant, évidemment. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que l'intériorité, on l'a tous, mais il faut le nourrir parce que, comment dire, elle se renouvelle, cette intériorité. Elle est stimulée. C'est comme la mémoire. Tout d'un coup, on lit une phrase qui nous intéresse et puis elle fait référence. Tout d'un coup, elle réveille certaines choses. On voit un sourire. Ça peut être des choses comme une fleur qu'on regarde. Hein, je veux dire, c'est mais simplement, on nourrit ce jardin intérieur chaque jour, et si on ne le renouvelle pas, effectivement, ben, il se fane un petit peu, il est un peu asséché. Et je crois que c'est la façon dont on regarde ce qui se passe autour de nous qui va le régénérer, tout simplement. C'est le regard vers les autres. Alors, au théâtre, effectivement, chaque jour, il faut répéter le même chemin. Et ce chemin, il faut le renouveler. Et qu'est-ce qu'on essaye au théâtre? De trouver quelque chose de vivant, quelque chose qui se passe. Pour moi, c'est ça l'important. On n'essaye pas de répéter la même chose. Donc, du coup, il faut se redonner des stimulants, des choses, quelque chose qui va nous redonner envie de donner cette histoire aujourd'hui. Elle va être de nouveau nécessaire parce qu'on a pensé à ça, on a vu cela, on a discuté de ceci et puis on est nourri de ça. Alors, est-ce qu'on a peur de son intériorité? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal. Le métier d'acteur, évidemment, c'est d'aller puiser, d'aller chercher. Donc au contraire, on a envie d'aller chercher, de découvrir même, d'aller dans un chemin inattendu. Mais je crois que ceux qui ont peur de l'intériorité, eh bien, c'est quelque chose qui n'amène pas vers la vie. L'intériorité permet la rencontre de l'autre.
Est-ce qu'il y a, vous y faisiez allusion tout à l'heure, Irène Jacob, est-ce que justement il y a des espaces de théâtre qui sont plus propices à ça que d'autres? Par exemple, les Bouffes du Nord, où vous êtes actuellement avec La Maladie de la Mort, est un théâtre qui est un des plus beaux théâtres de Paris, parce que c'est aussi un théâtre qui est un théâtre un peu décrépit, qui est un théâtre très intimiste, même s'il est quand même d'assez grande dimension. Est-ce que ça accroît la possibilité dans laquelle on est d'aller chercher en soi ce qui va donner le jus du personnage?
Alors c'est vrai que Peter Brook a, dans les Bouffes du Nord, imprégné tous ces murs de ce théâtre-là, de cet espace vide dans lequel on vient avec juste soi et une parole qui porte. Et c'est vrai que quand ça fait la cinquième fois que je joue aux Bouffes du Nord maintenant.
Oui, c'est un lieu que vous connaissez bien. Oui.
Et c'est vrai que quand je vais là-bas, je me sens protégée. Je me dis, il ne peut rien m'arriver. J'arrive là, je regarde ces grades, je vois ce théâtre-là. J'ai l'impression que toutes les ondes qu'y a mis Peter Brook et ce théâtre-là, c'est là. On sait qu'il est rempli d'une histoire quand même qui est très inspirante déjà. Moi, j'en ai vu tellement de spectacles là-bas que j'ai aimé, que d'y jouer. Je le sens vraiment comme une chance. Mais comme vous dites, Joël, on a son intériorité, mais on arrive dans un espace. Et c'est ça qui est important, c'est la façon dont ça circule, finalement. Si on est juste intérieur et qu'il n'y a rien qui passe, c'est la peau, l'épidermie dont vous parliez avec Breton. Il faut que ça transpire à travers les pores. Il faut que l'esprit affleure sur la surface du corps, comme dirait Marguerite Duras.
Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Je voudrais vous faire écouter, Irène Jacob, la voix de votre partenaire dans Rouge, le film de Kieslowski, avec qui vous avez aussi tourné La double vie de Véronique, film qui date donc de 1994, hein, Rouge. Il racontait, Jean-Louis Trintignant, comment s'était passé le travail avec ce cinéaste.
Il parle beaucoup, mais il ne parle pas de psychologie. Il ne parle pas de la psychologie des personnages, il parle de beaucoup, mais des choses techniques précises. Mais beaucoup, beaucoup. Et c'est très difficile. En même temps, c'est enthousiasmant, mais c'est très difficile. C'est jamais la facilité, c'est jamais ce qu'on fait naturellement.
Je suis revenue parce que j'ai quelque chose à vous demander. Ne faites plus ça.
J'ai fait ça toute ma vie.
C'est le metteur en scène qui joue un rôle important. Moi, je suis un instrument. Alors, je suis un instrument qui boite en ce moment. Alors, je boiterai dans tous les films. Je ne le fais pas exprès, mais ça me plaît vraiment. Ce qui me plaît d'être acteur, c'est d'être des personnages différents. Et il est certain que le personnage de Rouge était plus facile pour moi. Ça me ressemble davantage. L'autre, ça ne me ressemble pas du tout. C'était très difficile et j'étais assez désagréable, assez antipathique pendant le film. Ça m'était difficile parce que le personnage est un type qui râle tout le temps et parce que j'avais peur de ne pas y arriver. Quand j'ai vu le film, j'étais très content. Je pense que nous ne sommes pas des interprètes. Nous sommes des instruments. L'interprète, c'est le metteur en scène. C'est lui qui donne un son à l'instrument. Mais ce n'est pas nous. On peut être un bon instrument, c'est déjà intéressant. Mais c'est tout. Il fait avec nous, il fait avec ce qu'il a, il fait avec ce qu'on lui apporte.
Alors voilà, Irène Jacob, moi je voulais vous faire écouter cet extrait formidable de Trintignant parce que je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne suis pas actrice. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je ne pense pas que vous soyez juste des instruments agis et mus par le metteur en scène. Je pense que vous n'êtes pas des coquilles vides. D'ailleurs, vous venez de nous le dire. Vous êtes plein, rempli de pensées diverses et variées. Donc je ne crois pas trop, moi, à cette théorie de l'instrument et de l'interprète. Qu'est-ce que vous en dites, vous?
Alors, je dirais que, justement, ce qu'il y a de merveilleux avec Jean-Louis, c'est qu'il faut l'écouter et qu'il sait toujours, enfin, il prendra, il dira une chose, mais on sait bien que Jean-Louis, c'est vraiment un grand interprète.
Bien sûr,
aussi.
Bien sûr, c'est absolument
et
pas ce que
c'est
je
vrai que, justement, je l'ai entendu tellement souvent, même dans la lecture de poèmes, dès le premier mot. Enfin, je veux dire, il arrive avec sa façon d'avoir lu ce poème, avec sa vie, avec il apporte tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas. Je vois ce qu'il veut dire avec Krzysztof Kieslowski. On ne parlait pas psychologie. Et c'est vrai que plutôt, il y a des metteurs en scène qui. Ça vient vraiment de l'Est, justement, Grotowski, c'est à travers le geste, à travers le corps, à travers la façon de construire des plans, que j'ai retrouvé d'ailleurs chez Cathy Mitchell, des constructions de plans qui vont raconter finalement l'intériorité des personnages. C'est-à-dire que, est-ce que si on le voit de très loin, et puis tout d'un coup on s'approche de sa main, on voit tout d'un coup un pays, on voyage à travers lui, et ça d'un coup ça lui donne une... comment dire, on s'approche du personnage, sans spécialement le charger en lui disant, alors à ce moment-là, tu es joyeux et en même temps triste, je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'était pas du tout le genre de travail, mais c'était plutôt de créer une relation forte avec les objets, le plan, le partenaire.
Comme Jean-Louis Trintignant, Irène Jacob, vous aimez beaucoup l'exercice de la lecture. Vous faites souvent des lectures. Et souvent, la lecture, c'est un exercice en solo. On est généralement seul. Est-ce que la lecture, au fond, n'est pas le summum de l'intimité qu'on entretient avec un auteur et avec soi-même, et donc le summum de l'intériorité ? La lecture publique, évidemment, la lecture en public.
La lecture publique, c'est assez beau parce qu'on est avec une voix et un micro, une chaise, on passe le plus important, un texte, et puis chacun l'entend et le nourrit à sa façon. Donc je crois que tout le monde a eu des images très différentes pendant la lecture, de ce qui s'est passé, et en fait, c'est ça qui est assez beau, c'est-à-dire que chacun a pu le nourrir lui-même, et c'est pour ça que les textes sont intemporels, peuvent passer mille cultures, parce que chacun arrive à nourrir ses mots d'images tout à fait personnelles et tout à fait différentes. Alors effectivement, ça stimule tout notre jardin, parce qu'on entend un patio dans le sud, et chacun voit un patio. Chacun voit une image qui lui est propre, mais il faut la créer, cette image, pour l'écouter. Et puis tout à coup, on dit « Marthe arrive », et on se dit « Tiens, on voit une image de Marthe ». On n'y pense même pas. D'ailleurs, c'est beau, parce que quand on parle au téléphone avec quelqu'un, sans même vouloir se dire « Tiens, comment est cette personne au téléphone ?» On s'est déjà fait une idée « Comment est cette personne au téléphone ?» Et puis on l'a plusieurs fois parce qu'on doit régler un contrat ou je ne sais pas quoi. On imagine même le bureau dans lequel elle est, mais on ne se pose même pas la question d'imaginer ce bureau. Et tout d'un coup, on y arrive, on dit « Ah, je n'avais pas du tout imaginé les choses comme ça. » C'est fou comme finalement l'imaginaire vient proposer plein d'images tout le temps. Et on a une interprétation... pas toujours juste, inadéquate, comme dirait d'ailleurs parfois Gilles Deleuze, justement, des perceptions confuses, des sensations diffuses, inadéquates.
Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'instabilité créée par cet imaginaire qui délivre des images, des sons, des souvenirs? Et au fond, est-ce que jouer, entrer dans un texte, entrer dans une écriture, entrer dans une lecture, ce n'est pas canaliser ce flux incessant, permanent, qui fait qu'on est des êtres humains pensants, mais ce n'est pas le canaliser pour justement peut-être arriver à une certaine forme de sérénité, sans doute.
Alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, l'intériorité, ça peut être « Ah oui, c'est vrai, il faut que j'achète un poulet. À quelle heure ? Ah oui, Saint-Lazare ou Miroménil ? Ah oui, bah, toutes ces petites choses comme ça qui n'ont aucun intérêt et qui nous nourrissent. Ah oui, il faudra que je dise à Florence. Ah non, c'est pas... des petites choses qui nous vident, quoi, parce que c'est 1000 pensées qui n'ont rien à voir et qui sont bien en quinconce. Et tout d'un coup, effectivement, d'arriver tout d'un coup à aller dans une concentration, d'un coup, on prend ce flux et ces impressions confuses, ces sensations diffuses, et on se dit, bah tiens, j'essaye de me rassembler dans ce, par exemple, autour de ces mots, et de pas m'éparpiller et de penser à quelque chose, et je sais pas encore à quoi, mais ça va venir, enfin, ça va se faire en le faisant.
Marguerite Duras, dont vous lisez actuellement La maladie de la mort, puisqu'on n'a pas dit, mais vous êtes la narratrice de ce texte érotique au Bouffe du Nord. Marguerite Duras, elle a creusé l'intériorité parfois jusqu'à l'obscénité dans le très bon sens du terme. Et je vous propose d'écouter une archive assez formidable d'elle qui date de 1980 où elle parle de l'écriture et d'une certaine manière de ce que c'est comme intériorité extrême que d'écrire.
Ouais.
Vous savez, je ne comprends pas toujours très 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 bien ce que je dis. Ce que je sais, simplement, c'est que c'est complètement vrai. On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. C'est un dépeuplement de la vie, quand même. Quand je pense à ma vie, je pense que j'ai été quand même très absente. Sauf peut-être l'amour de mon enfant.
Et absente par rapport au...
Absente, c'est comme ça écrit tout le temps, c'est-à-dire c'est pas seulement quand on écrit. C'est un quant à soi qui est complètement impérieux, qui ne cesse jamais, dont on est complètement la proie, la victime. Enfin, c'est assez horrible, faut dire. Après chaque livre, je me dis que c'est fini, que je ne peux plus vivre comme ça, dans cet aparté infernal. Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre. Ou bien il n'y a pas d'écriture du tout. Vous savez, c'est ce que je pense. Puisque ce que vous mettez dans le livre, ce que vous écrivez, ce qui sort de vous, ce qui en passe par vous plutôt, puisque c'est ça, en définitive, le plus important de tout ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Si vous faites l'économie de ça en faveur de la vie vécue, vous n'écrivez pas. On n'est personne dans la vie vécue, on est quelqu'un dans les livres. Et plus on est quelqu'un dans les livres, moins on est dans la vie vécue.
Voilà, c'est un peu compliqué de commenter un tel extrême engagement dans ce qu'on fait, ça écrit tout le temps, dit-elle, Jacob.
C'est-à-dire que c'est vrai que dans le moment, en tout cas, où on arrive au théâtre et puis on commence à se préparer, on va dire les mêmes mots, ça va être ceci qu'on va dire, c'est vrai qu'il y a un trajet qu'on fait qui est celui-ci. Contrairement à la journée, tout à coup, on va recevoir ce coup de fil, on va aller ici, on va aller là, etc. On va se disperser. Et en fait, ce que j'entends chez Marguerite Duras, c'est aussi de dire, ben voilà, c'est un moment où je ne sais pas pourquoi j'écris ça, mais je sais que c'est vrai. Ce que j'entends, c'est, il y a l'instinct qui vient, c'est-à-dire qu'on donne une place à cet instinct qui en sait plus parfois
que votre raison,
voilà,
que
votre concentration. Pas, quand tu as dit dans une de mes phrases, et puis vous le faites, je ne saurais pas dire pourquoi vous le faites, je vous vois le faire, sans savoir. Et je pense que l'écrivain est dans cette écriture-là où de temps en temps il voit quelque chose qu'il écrit. Quand il dit qu'il se laisse mener par ce stylo comme ça qui l'emmène vers quelque chose qu'il ne connaît pas mais vers lequel il va. Donc cet instinct, c'est tout d'un coup, ça devient quelque chose, ça devient l'élan de cette intériorité. Il y a la vitesse là, on passe et ça c'est assez beau parce qu'on y va, on va dans quelque chose qu'on ne sait pas et on se lance. Quand on dit tout d'un coup, pour aller au théâtre, en italien, on dit in bocca al lupo crepi lupo, pour dire merde, en fait, à un acteur, break a leg en anglais. Donc, dans la gueule du loup, que meurt le loup. C'est-à-dire qu'on va se jeter dans la gueule du loup, mais là, le loup, on va lui faire la peau. C'est-à-dire qu'on va lui dire, j'ai pas peur, on y va. Mais c'est vrai que cette gueule du loup, ça veut dire que d'écrire, de mettre en scène ou de jouer, ça, tu vas prendre un risque qui va aller... sinon, c'est pas intéressant, comme elle dit, je sais pas si je le comprends, mais en tout cas, c'est là, ça s'exprimer. Cette place-là, il faut la laisser aussi. C'est pas facile, hein, cette place-là, j'ai rencontré comme ça des grands écrivains comme Paul Auster qui dit aussi, j'arrive pas, je suis étonnée par ce que j'écris, là je comprends pas, mais en même temps ils ont la virtuosité de l'écriture, donc ils arrivent à, malgré le fait qu'ils se laissent aller par l'instinct, il y a quand même toute une construction qui se fait aussi naturellement, bon, comme les grands peintres, j'imagine qu'ils parfois ne savent pas encore ce qu'ils peignent, et puis tout d'un coup ça apparaît. Voilà, c'est un geste où on se laisse aller.
Mais une fois que vous avez touché à ça, et vous étiez pas loin de le dire, Irène Jacob, une sorte d'état de grâce au fond,
oui,
si j'entends
voilà.
bien.
Hein. Oui, oui.
Une fois qu'on a touché à ça, comment on fait pour revenir dans le réel ? Pour revenir dans le réel, pour quitter cet état-là de grâce dans lequel vous plonge le jeu ?
Ah oui, mais alors c'est-à-dire qu'on le gagne cet état de grâce parce que il vient aussi avec des soirées où ça se passe pas du tout, du tout. Et donc, ça c'est comme Maria Cazares qui disait après une mauvaise représentation, faut être sûr que la prochaine va être très bonne. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où on s'approche, on lutte, on n'y arrive pas. Hop, ça se passe. Et puis ça se passe parfois parce que le partenaire arrive avec quelque chose, une vérité, il y a un accident. Il y a beaucoup de réalisateurs qui disent que c'est important les accidents dans un tournage. Enfin, pas les accidents graves, mais les choses. Ah ben, il y a plus de, ça ne marche pas, tout d'un coup il faut attendre, on peut plus tourner ici, on fait ça autrement, et là on crée des choses qui nous sortent un peu, qui nous décalent et qui nous poussent autre part, et puis quelque chose naît de tout ça, et il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens, j'ai tourné avec Pascal Thomas justement cette année, et il cherche tout le temps ça, il dit voilà ce que j'ai écrit c'est une chose... J'essaie de trouver autre chose, enfin, de trouver voilà, qu'est-ce qui peut se passer sur le moment, de faire confiance à, en espérant que tout d'un coup la vie va s'en mêler.
Merci beaucoup, Irène Jacob, d'être venue nous voir dans Une saison au théâtre.
Merci.
Pour parler de l'intériorité à l'occasion de cette maladie de la mort de Duras, mise en scène par Cathy Mitchell au Bouffe du Nord, spectacle qui se joue là-bas jusqu'au 3 février. Une longue tournée va suivre, elle vous amènera au Luxembourg, en Angleterre, aux Pays-Bas, mais elle passera aussi en France, à Grenoble fin mars, à Douai début avril et à Marseille mi-mai. Et je rappelle qu'en mai, à Montbéliard et en juin à Paris, on vous verra dans La Voix humaine,
504,
mise en scène de Roland Osé, d'après le texte de Cocteau. Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Duperron, Emmanuel Morse, Dancan, Vanessa Nadjar, Vincent Deck, Joël Gaillot, vous salue. Bientôt 16h sur France Culture. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet.